Arthur Bernhead, Bonneau, Garnier et compagnie. Chapitre 1. L'affaire de la rue Ordener. Les bandits en auto. Première enquête. Au chevet de la victime. Les cinq jeunes gens mystérieux. Le 21 décembre 1911, une forte limousine peinte en vert foncé et noir et toute maculée de boue stoppait devant le numéro 142 de la rue Ordener. Les stores étaient tirés, mais il devait y avoir certainement un ou plusieurs occupants à l'intérieur, car le chauffeur, s'emparant d'un cornet acoustique placé à côté de lui, se mit à converser avec eux pendant quelques instants. Puis il remit sa voiture en marche et s'arrêta de nouveau 50 mètres plus loin, à la hauteur du numéro 148. Un homme descendit de la mystérieuse voiture. Il était vêtu d'un pardessus à couleur sombre, à martingale, et coiffé d'un chapeau melon à bord plat enfoncé sur les oreilles. Un foulard lui dissimulait le bas du visage, laissant apercevoir seulement le lorgnon qui cachait ses yeux. Il se mit alors à parler à voix basse au chauffeur qui l'écoutait, tout en approuvant ses paroles d'un signe de tête affirmatif. Au même moment, un garçon de recette, Ernest Caby, de la Société Générale, qui remplissait momentanément les fonctions de caissier-payeur à l'agence AB de la rue Ordener, descendait du tramway de la Trinité-Saint-Ouen à la station qui se trouve à l'angle de la rue Don Raymond et où l'attendait à l'employé de la succursale. Monsieur Gaby, un homme dans la force de l'âge, à la figure énergique et à l'allure décidée, sous son classique uniforme bleu et son traditionnel bicorne, venait apporter à l'agence AB les fonds nécessaires aux opérations de la journée qu'il avait été chercher au siège social de la rue de Provence et qui représentait près de 800 000 francs en titres, en or, en argent et en billons. En outre, il portait dans la poche intérieure de sa tunique une somme de 20 000 francs en billets de banque, enfermée dans un de ses porte-billets spéciaux au garçon de recette. Flanqué à sa gauche de son collègue M. Pimans, qui avait pour mission de l'escorter et de le défendre au besoin jusqu'à son arrivée à l'agence, distante environ de 80 mètres de là, Caby traversait la rue Ordener en biais pour prendre le trottoir des numéros pairs, lorsqu'il vit venir vers lui l'homme au binocle, qui avait les deux mains enfoncées dans ses poches, et qui le regardait fixement. Soudain, à 2 mètres de distance, cet individu, que l'un des occupants de la limousine avait rejoint, sortit un revolver qu'il tenait dans la main gauche et fit feu sur Caby, qui, atteint à la poitrine, tomba à genoux. Presque aussitôt, le malheureux était frappé d'une seconde balle dans le dos. Courageusement, le garçon de recette se raccrocha à son agresseur, qui, aidé par son complice, lui arrachait brutalement sa double sacoche. Pendant ce temps, M. Pimat s'affolait et se précipitait vers la succursale en criant « au secours, à l'assassin !» Tandis que, râlant à terre au pied d'un arbre, le garçon de recette bégayait « Oh, les misérables, ils m'ont assassiné, ma pauvre femme !» Le jeune groupe tabac de l'agence AB, dont l'attention avait déjà été éveillée par le bruit des détonations, sortait aussitôt et donnait l'alarme. De courageux passants voulaient se précipiter vers les deux bandits qui, emportant leur butin, se dirigeaient vers la voiture dont un troisième individu tenait la portière ouverte. À ce moment, la sacoche leur échappant roula dans le ruisseau, mais, protégé par le chauffeur, qui sans discontinuer mitraillait la foule à coups de revolver, il se baissait, reprenait la sacoche et la lançait dans la limousine au fond de laquelle un autre complice les attendait. L'un des bandits sautait dans la voiture, l'homme au lorgnon le rejoignit et le troisième s'asseyait à côté du chauffeur qui partait à une vitesse rapidement accélérée et s'engageait dans la rue des Cloîts. Au même instant, un autobus d'essai arrivait en sens inverse. On put croire un moment que les deux véhicules allaient se rencontrer. Il n'en fut rien. D'un coup de volant magistral, le conducteur de la limousine, tout en proférant une injure, évita la collision et, poursuivant sa route à une allure de plus en plus rapide, se dirigea vers la rue Montcalm où il s'engagea. Plusieurs graves gens crièrent à l'assassin, mais ils virent disparaître la limousine filant avec une telle rapidité que tous les passants et les commerçants demeuraient sidérés. Après avoir passé au-dessus d'un des tas de sable et heurté un peu plus loin un plaquet d'arrosage, le bolide disparaissait dans la direction des boulevards extérieurs. Par un prodige qui tenait du miracle, aucun des poursuivants n'avait été blessé. Pendant ce temps, d'autres personnes s'étaient portées au secours du malheureux garçon de recette qui perdait abondamment son sang. On l'emmenait dans une pharmacie voisine où on lui faisait un pansement provisoire et de là on le transportait à l'hôpital Bichat dans un état plutôt inquiétant. Dans la poche intérieure de sa tunique, on retrouvait, attaché par sa chaîne, le portefeuille qui contenait les 20 billets de 1 000 francs que ses agresseurs n'avaient pas eu le temps de lui enlever. Quelques instants après, M. Chevassu, directeur du personnel de la Société Générale, accourait au chevet de la victime, qui n'avait pas perdu connaissance et s'écriait avec un accent déchirant « Emportez-moi, monsieur le directeur, je ne veux pas mourir ici, je vous en supplie, que l'on m'amène auprès de ma femme, je veux m'en aller, je veux l'embrasser une dernière fois. » Brisé par cet effort, il laissait retomber sa tête sur son oreiller et demeurait silencieux, inerte, comme s'il eût perdu tout à coup la notion de la réalité. Sans perdre une minute, M. Dupuis, commissaire de police du quartier des Grandes Carrières, se livrait à une première enquête et l'interrogeait successivement plusieurs personnes qui avaient assisté à cette sauvage et audacieuse agression. L'un d'eux, M. Soupiron, fournissait les renseignements suivants. Un seul individu a tiré sur le garçon payeur. Il était de taille plutôt petite, d'une corpulence assez forte. Son vêtement se composait d'une sorte de pardessus imperméable à martingale de couleur sombre, et il était coiffé d'une casquette à oreilles qu'il avait eu soin de rabaisser. Son compagnon, celui qui s'empara de la sacoche, portait une coiffure identique et un pardessus à caoutchouc jaunâtre. Ils étaient accompagnés de deux autres personnes, un jeune homme de 15 à 16 ans, qui s'est tenu durant toute la scène sur le marchepied de l'automobile, et un individu qui n'est pas descendu de la voiture. Un autre témoin, M. Rochon, donnait un signalement assez semblable à celui-ci des agresseurs de M. Cabi, et les deux autres, M. Thomas et M. Allègre, s'accordaient à dire que la voiture était d'une couleur verte très foncée. Quant à M. Piman, ce guichetier de la succursale AB qui accompagnait Cabi, il déclarait au magistrat « J'ai été affolé quand je me suis rendu compte que mon malheureux camarade était la victime choisie par les bandits. Oh, je n'ai eu qu'une pensée, aller chercher du secours, et je me suis précipité à l'agence. Vous savez, notre course s'est freinée derrière l'auto des agresseurs, mais j'ai été trop troublé pour rien remarquer de leur physionomie. À mon avis, la voiture qui les emportait était mal entretenue peut-être, mais luxueuse et puissante. Je ne saurais même pas vous dire la couleur précise de l'auto. » De son côté, Madame Cabi, la femme de la victime, déclarait « Quelle douleur affreuse j'ai ressenti lorsque tout à l'heure on est venu m'apprendre l'attentat dont mon pauvre mari a été l'objet. Voilà 8 ans que nous sommes mariés dans notre petit village d'Indre-et-Loire, à Bléré. Nous étions si heureux. Pourtant le malheur vint l'an dernier frapper à notre porte. Nous avions une charmante fillette de 7 ans, ma petite Geneviève. Et voici, tout juste 1 an, à la même date, le 21 décembre, qu'elle tomba malade et expira quelques jours après dans nos bras. Triste et fatale coïncidence. Aujourd'hui, 21 décembre, mon mari tombe sous la balle d'un assassin. Comme on lui demandait si cet an dernier, M. Cabi n'avait pas fait la connaissance de gens capables de lui inspirer quelque méfiance, elle s'écriait: Non, monsieur, oh, mon mari était trop prudent pour se lier avec n'importe qui, surtout lorsqu'il était en service. Il évitait ce qu'il approchait et n'engageait de conversation avec personne. Depuis combien de temps était-il employé à la Société Générale? Depuis 4 ans. Et éclatant en sanglots, la pauvre femme s'écriait: Il a fallu que cette épouvantable chose arrive, que des bandits le blessent, le tuent en plein jour. Oh, je suis bien malheureuse! Immédiatement, le service de la police judiciaire, qu'on appelait alors la Sûreté parisienne, afin de la différencier de la Sûreté générale, qui dépend directement du ministère de l'Intérieur, entrait en scène. Aussitôt prévenu par un coup de téléphone de M. Dupuis, M. Hénard, qui était alors le chef de la sûreté et avait pour collaborateurs principaux les commissaires de police Joutu et Raoul Legrand, se rendait immédiatement à l'hôpital Bichat afin d'y interroger le malheureux Cabi. Il s'y rencontrait avec le juge d'instruction Gilbert, qui venait d'être désigné pour suivre cette affaire. Mais Cabi était hors d'état de leur répondre, et les magistrats durent se contenter de réentendre les témoins qui avaient déjà fait leur déposition au commissaire de police des grandes carrières et qui ne purent que renouveler leur déclaration première. Un employé de la Sûreté générale les complétait de la façon suivante. Dans nos petites succursales de la rue Ordonnère et de l'avenue de Saint-Ouen, le garçon de recette qui descend du tramway en gare Trinité est simplement accompagné d'un seul de ses collègues. Il n'a en effet qu'une centaine de mètres à parcourir pour atteindre la succursale. Fallait donc que les bandits eussent une connaissance parfaite de ce détail de service pour tenter le coup. D'ailleurs, le drame s'est déroulé si rapidement que le garçon qui accompagnait mon malheureux collègue n'a pas eu le temps, paraît-il, d'intervenir. Cela d'ailleurs était inutile, sans armes, à pied, que voulez-vous qu'il fît contre des bandits armés qui disposaient d'une puissante automobile? Ensuite, plusieurs inspecteurs, sous la direction du brigadier Fleury, interrogèrent plusieurs témoins du drame. L'un d'eux put leur affirmer que la voiture portait le numéro 600X8. Mais on ne tarda pas à acquérir la certitude que les bandits avaient supprimé le véritable numéro pour le remplacer par celui-ci. En effet, de rapides recherches effectuées à la préfecture de police établissaient que le 600X8 appartenait à un monsieur M, demeurant avenue de Martinville, 40 à Saint-Maur. Or, cette voiture, et cela ne faisait pas l'ombre d'un doute, se trouvait dans son garage à l'heure même que le garçon de recette était assailli par les mystérieux bandits. La tâche de la police était d'autant plus difficile qu'elle ne possédait des malfaiteurs que de très vagues signalements. Une lueur, cependant, allait briller à travers les ténèbres dont s'enveloppait dès le début cette difficile enquête. En effet, M. Hamard, le jour même, était avisé qu'on avait découvert sur la plage de Dieppe, derrière le casino, une limousine automobile sans numéro, peinte en vert sombre et enlisée dans le sable, et que quelques instants après, dans le jardin du casino, on avait découvert une plaque provenant évidemment d'une automobile et portant le numéro 600X8. L'automobile était dépourvue de phare et la police locale avait fait remiser dans un garage. Or, le même jour, le journal Loto publiait en première page l'annonce suivante: 500 francs hein, qui fera retrouver auto limousine Delaunay Belleville 10-14 HP modèle 1910, peinture vert et noir, chiffre JN, numéro 788X3, moteur numéro 2679V, pneus 820 sur 120. Volé le 14 décembre. s'adressait à M. Normand, 12 rue du Chalet, Boulogne-Seine. Une rapide enquête permettait d'établir que la voiture abandonnée à Dieppe était bien celle-ci. D'autre part, on apprenait que le véhicule abandonné avait été vu à Dieppe, une première fois rue Chadet, une seconde rue Victor Hugo, à l'angle du quai Bérigny. Là, la voiture s'était arrêtée, un homme petit et gros, coiffé d'un chapeau blond, avait lancé au chauffeur « À l'hôtel !» L'enquête se poursuivait pareillement à Paris. M. Hamard, acquérant bientôt la certitude que la limousine avait franchi l'enceinte de Paris par la porte de Clichy, entre 9 et 10 heures du matin, que l'auto marchait à une allure rapide et que le chauffeur, sans tenir compte des appels des employés de l'octroi, avait disparu vers le nord-ouest par le boulevard national, et son passage était également signalé à Pontoise et à Gisors. L'opinion première de la police fut que les agresseurs d'Ernest Caby avaient dû prendre le bateau et se réfugier en Angleterre. M. Hamard télégraphiait immédiatement aux autorités anglaises de faire surveiller tous les bateaux qui arrivaient à New Haven. Mais ce n'était pas besoin aisée, car on ne possédait toujours pas le signalement des fugitifs. Pourtant, de tous côtés, les renseignements affluaient au bureau du quai des Orfèvres. Les uns prétendaient les avoir vus en Belgique, les autres en Angleterre, en Italie. Il n'y avait pas un département de France qui ne signala jour, présence, mais malgré tout, il demeurait toujours insaisissable. Cependant, M. Caby, dont l'état s'était sensiblement amélioré, pouvait fournir quelques certitudes fort intéressantes à M. le juge d'instruction Gilbert, qui s'était de nouveau rendu auprès de lui. Après avoir donné sur la taille et les vêtements de ses agresseurs des renseignements conformes à ceux qui avaient déjà été recueillis, le garçon de recette déclarait « Mon agresseur, autant qu'il m'a semblé, pouvait avoir une vingtaine d'années. Si on vous présentait sa photographie, demandait M. Gilbert, le reconnaîtriez-vous ? Oh oui, répondait M. Gaby avec un accent de conviction absolue. Vous ne soupçonnez personne ? Oh non, car je suis sûr que je voyais ce gredin pour la première fois. C'est un dernier, vous n'avez pas remarqué que l'on vous suivait ? Non, pas du tout. M. Gilbert, pour ne point fatiguer le blessé, ne voulut pas pousser plus loin son interrogatoire. D'ailleurs, il était visible que le brave homme n'en savait pas plus long. Et le magistrat se retira après lui avoir souhaité un prompt rétablissement. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait à Dieppe, où s'était rendu M. Bertillon, directeur du service anthropométrique. Après avoir fait photographier le chemin où l'automobile enlisée avait été retrouvée, l'éminent technicien recueillait sur la voiture de nombreuses empreintes. D'autre part, le commissaire de police de cette ville recevait la déposition de M. Triquet, qui habitait le numéro 21 de la rue Jean Forêt, au sommet de la côte de Rouen, à l'entrée de la route du Havre. Ce témoin racontait que, vers 10 heures du soir, son attention avait été attirée par le bruit d'une auto arrêtée et dont le moteur tournait. Intrigué, il se mit à sa fenêtre et distingua nettement, sous le réverbère voisin, 4 hommes qui discutaient avec animation, penchés sur une carte routière. « Je te dis que c'est cette route !» affirmait l'un des hommes. « Mais non, c'est celle de gauche !» disait un autre. Mais dès qu'ils aperçurent M. Triquet, ils se turent et remontèrent dans l'auto dans laquelle le témoin crut reconnaître une Charron, et le véhicule partit dans la direction du Havre. Mais un document, qui à première vue paraissait d'une certaine importance, était tombé entre les mains de la police. Parmi les pièces à conviction qu'un inspecteur de la police judiciaire était allé chercher à Dieppe, dans la voiture abandonnée, et qu'il avait rapporté à Paris, se trouvait une peau de bique qui avait appartenu au chauffeur de M. Normand, propriétaire de l'automobile dérobée. Or, dans l'une des poches, on avait découvert une carte commerciale portant cette indication. Réparation de chambres à air et d'enveloppes. Travail à façon, achat de vente, prix très modéré. Louis Coudray, 32 boulevard de Villers-de-Levallois-Perret, téléphone 518-81. Un de nos confrères du matin, mis au courant de cette découverte, s'en allait trouver M. Louis Coudray qui lui faisait les déclarations suivantes. Avant d'être employé ici, je m'occupais de représentation et de réparation de pneumatiques et de chambres à air. Mon métier m'obligeait à fréquenter une foule de chauffeurs, surtout de ceux conduisant des voitures de maître. Au nombre de ces chauffeurs se trouvait celui de M. Normand de Boulogne-sur-Seine, à qui je me souviens fort bien d'avoir remis plusieurs de mes cartes réclames. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce qu'une de ces cartes soit restée dans une poche de son manteau, volée en même temps que la limousine de M. Normand. Comme notre confrère faisait part à son interlocuteur de la déposition qui avait été faite la veille au commissariat de police de Dieppe, un habitant de cette ville, M. Louis Coudray, s'écriait « Mais cette seconde automobile, ne serait-elle pas par hasard une voiture de la marque Charron ?»« Mais si, précisément. Oh, eh bien, écoutez ceci. Il y a environ 8 à 10 mois, un de mes amis voulait se défaire d'une automobile Charron. » Limousine de 20 à 25 chevaux, de couleur verte fort sombre, dont il n'avait plus l'emploi. On lui indiqua, comme acquéreur possible, plusieurs jeunes gens désireux d'acheter une automobile puissante, usagée et à prix réduit. Rendez-vous fut donné, les jeunes gens, au nombre de 5, vinrent un jour, boulevard de Villiers, essayer la limousine. Il ne paraissait pas très habile à conduire. Toutefois, le marché fut conclu, et par la suite, mon ami eut quelque peine à toucher les 3 000 francs, prix convenu de vente. Oh, ce débiteur était difficile à joindre, habitant aux quatre coins de Paris dans des hôtels douteux. L'un de demeurait à Montmartre. Cependant, la voiture fut payée. Le premier soin qu'eut mon ami fut de prévenir le préfecture de police que la limousine n'était plus en sa possession, ceci pour éviter de recevoir sa feuille de taxe. Malgré cette précaution, quelques mois plus tard, la préfecture réclamait le paiement de l'impôt, prétextant qu'aucune déclaration ne lui était parvenue de la part de nouveaux propriétaires. Cette voiture, cependant, n'avait pas quitté Paris. On la revit, boulevard de Villiers, à quelque temps de là. Toujours les 5 mêmes personnages la montaient. Son chauffeur avait fait de grands progrès, sans toutefois être de force à réparer une panne, puisque le fait se produisit non loin d'ici et qu'il dut avoir recours à un garage voisin. Et j'ajoute, terminait M. Coudray, que sur ces 5 personnages, un était de haute taille et de corpulence normale, un autre était petit et plutôt gros. Qu'est devenu la fameuse Charron? Durant leur séjour à Levallois, ses propriétaires fréquentaient la pire canaille de leurs droits et paraissaient eux-mêmes capables de n'importe quel coup de main. Le lendemain, notre confrère avait découvert l'adresse du mécanicien qui avait vendu la Charron. Il s'appelait M. Homer Finet, était alors chauffeur de particulier avenue des Champs-Élysées. Homer Finet déclarait « Les détails de cette vente, publiés par Le Matin, sont exacts, sauf sur le montant de la somme versée, 3 300 francs et non 3 000 francs, et sur le nombre des acheteurs. S'il est vrai qu'au moment des essais de Macharon, 5 jeunes gens la montaient, s'il est vrai aussi que le jour que cette voiture revint à Levallois, les mêmes personnages s'y trouvaient, ce n'est en réalité qu'à 3 d'entre eux que je le vendis. J'avoue aujourd'hui avoir totalement perdu les souvenirs de leur nom et même de l'homme très grand aux moustaches brunes à qui je remis un reçu le jour du règlement. Et quand ils me demandèrent d'essayer la voiture, ils m'assignèrent un rendez-vous rue Fontaine. Je me souviens plus du numéro de l'immeuble. J'y trouvais en effet mes clients chez un marchand de vin. Ils me dirent d'habiter tous dans la maison, qui était un hôtel meublé. Ils me versèrent un acompte de 500 francs. Leurs allures me parurent si étranges que je ne consentis à me défaire de la voiture que contre le versement total de la somme convenue. Le jour de ce règlement de compte, qui se fit dans un café de la rue de Levallois, j'étais tellement peu rassuré sur les intentions de mes acheteurs que je priai le sieur Contenay, garçon laveur du garage où ma voiture était rentrée, de bien vouloir m'accompagner. Le reçu fut rédigé dans le bureau de ce même garage, et depuis je me suis plus soucié de ma Charron, je ne l'ai plus revue. La police, prévenue, faisait immédiatement opérer des recherches dans les hôtels meublés et les débits de la rue Fontaine, mais personne n'avait gardé le souvenir des 5 jeunes hommes à la Charron. Malgré le succès de ces premières recherches, les enquêteurs n'allaient pas tarder cependant à tomber sur la bonne piste. Chapitre 2. Un garagiste étrange. Sur la piste d'un coupable. Le crime de Thiers. L'auto volée. Où Garnier apparaît. Importantes arrestations. De recherches en recherches, des enquêtes en enquêtes, de recoupements en recoupements, les inspecteurs de la sûreté avaient été conduits à perquisitionner le 31 décembre, c'est-à-dire 10 jours après le drame de la rue Ordener, chez un mécanicien garagiste, M. Detwiller, à Bobigny. On avait su, en effet, d'abord, que 4 individus suspects avaient été vus dans la nuit du 13 au 14 décembre, descendant d'une limousine devant le garage du mécanicien, qui, après avoir parlementé avec eux, avait fini par donner asile à la voiture qu'on lui amenait et dont le signalement correspondait exactement à celui de l'auto volée à M. Normand, ainsi qu'à celle dont les mystérieux bandits s'étaient servis pour leur attentat contre le garçon de recette Cabi. La police avait également appris que, dans la nuit du 20 au 21 décembre, les mêmes individus avaient fait sortir la voiture de M. Detwiller et avaient disparu après avoir fait leur plein d'essence. Enfin, on avait acquis la certitude que le ménage Detwiller avait logé chez lui un marchand forain, un anarchiste nommé Leblanc, dit Garouni, ainsi que sa maîtresse Jeanne Botelli, Garouni, qui avait déjà subi plusieurs condamnations, était un bandit des plus dangereux et précisément recherché par la police. Sa photographie anthropométrique ayant été présentée à tous les gens qui, au cours de l'attentat de la rue Ordener, avaient entrevu l'agresseur du malheureux Cabi, presque tous reconnurent en lui l'individu au visage rond et à la moustache rousse qui, de la portière de l'automobile, en emportant les assassins, avait tiré plusieurs coups de revolver sur les passants lancés à leur poursuite. Immédiatement, M. Hamard, chef de la sûreté, et ses collaborateurs, M. Xavier Guichard et M. Jonin, précédaient à Bobigny et dans toute la région à des investigations ayant pour but de découvrir la retraite de Karoui. Quantité de maisons furent fouillées par les nombreux inspecteurs placés sous leurs ordres, mais sans aucun succès. Tout ce que l'on put savoir, c'est que Karoui avait disparu la veille du drame et qu'il avait été aperçu le 20 décembre au soir chez les Detwiller. Nulle part on ne signalait les traces de son passage sur les marchés où il s'en allait habituellement vendre sa camelote. Dès le point du jour, M. Hamard, accompagné du brigadier Fleury et de 4 inspecteurs, se présentait au garage de Detwiller et se livrait en présence du propriétaire à une perquisition en règle. Il découvrait, dissimulé sous un hangar, la poussette à l'aide de laquelle Karoui et sa maîtresse transportaient leurs pacotilles de marché en marché. Et dans le tiroir d'un meuble, il saisissait tout un attirail de cambrioleurs et enfin certains bidons d'essence vide qui avaient été volés à M. Normand. Comme les époux Detwiller et la femme Jeanne Botelli se refusaient à lui donner la moindre renseignement, sans se laisser attendrir par leur protestation d'innocence, M. Hamard procédait immédiatement à une arrestation générale. Les époux d'Edvillers et la femme Botelli étaient immédiatement dirigés sur le dépôt. Les policiers poursuivaient ensuite leur enquête à Pantin et à Aubervilliers. Et voici les restes de renseignements qu'ils obtenaient sur Karoui. Karoui-Édouard, dit Leblanc, dit Agua, dit Le Rouquin, était né le 26 juin 1883 à Lens-sur-Dendre, en Belgique. Il avait exercé pendant un certain temps la profession de tourneur en fer. De taille moyenne, mais très vigoureux, il passait pour un individu redoutable et ne sortait jamais sans son revolver. Anarchiste, individualiste, il ne buvait que de l'eau et se nourrissait principalement de légumes et de fruits. Il ne travaillait que deux fois par semaine, se rendant sur les marchés de la région pour vendre de la bibeloterie. Chaque marché lui rapportait un bénéfice de 15 à 20 francs. Et Karoui estimait que 30 à 40 francs par semaine lui suffisaient amplement pour vivre, lui et son ami. C'était avant tout un assoiffé de liberté et d'indépendance. Quant à sa maîtresse, jeune femme au teint olivâtre, à la chevelure noire et aux yeux ardents, petite et nerveuse, autoritaire de violente, elle semblait incarner le démon de l'anarchie. Mariée à un malandrin qui actuellement purgeait 5 ans de prison à Melun pour émission de fausse monnaie, elle avait eu un enfant de lui, ce qui ne l'avait pas empêché d'associer sa vie à Édouard Karoui, qui, paraît-il, lui obéissait sans broncher, ses moindres volontés étant pour lui des ordres. Muni de ses premiers renseignements, la police s'efforçait de dresser la liste des amis de Karoui. Elle ne tardait pas à apprendre que tous étaient des repris de justice, anarchistes, propagandistes, par le fait fabricant de fausses monnaies, que leur compagne, dont Jeanne Botelli, avait pour mission d'écouler. Or, fait troublant, non seulement tous ces individus étaient actuellement introuvables, mais quelques-uns même avaient déménagé à la cloche de bois. M. Hamard se faisait remettre les photographies et fiches anthropométriques d'une vingtaine d'entre eux. Deux retenaient son attention. L'une était celle d'un jeune homme imberbe, au physique agréable, et l'autre d'un homme d'une trentaine d'années, au coup de peigne caractéristique. Leur signalement correspondait fort bien à ceux de deux des agresseurs du garçon de recette. Dès à présent, déclarant que l'un était un nommé Bonneau, recherché pour avoir assassiné près de Melun un Italien qu'il conduisait dans sa voiture, et Bonneau, après avoir abandonné son véhicule près de la gare de Lieusaint, était demeuré introuvable. Quant à l'autre, c'était un individu nommé Garnier, auteur d'un vol commis à Charleroi dans la nuit du 7 mars 1911. En attendant qu'on s'emparât d'eux, les bandits tragiques, ainsi qu'on les appelait déjà, allait s'illustrer par de nouveaux et effroyables exploits. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, deux vieillards, un rentier, M. Moreau, âgé de 91 ans, et sa bonne, Mme Burnot, âgée de 73 ans, étaient assassinés dans la petite ville bois-bourgeoise où ils demeuraient à Thiers, près de Choisy-le-Roi. Vers 8h20 du matin, le fils de la vieille bonne, M. Harlieu, qui travaillait dans une usine des environs, était venu pour voir sa mère. Il trouvait la maison close et, comme après avoir frappé plusieurs fois à la porte d'entrée, il n'obtenait aucune réponse, pressentant un malheur, il courait chercher un serrurier et allait alerter le poste de police de Choisy-le-Roi. Bientôt, il revenait accompagné du garde champêtre et d'un serrurier qui eut vite fait d'ouvrir la porte. Quand ils pénétrèrent dans le pavillon, ils constatèrent que la porte du couloir qui séparait la salle à manger et le salon était ouverte, ainsi que celle de la salle à manger. De plus en plus angoissé, M. Hargieux escaladait l'escalier qui conduisait au premier étage, et dans une chambre à droite, où régnait un grand désordre, il apercevait le corps de M. Moreau étendu en travers sur un lit dont les draps étaient rouges de sang. Dans une pièce voisine, il découvrait le cadavre de sa mère, les pieds et les mains attachés avec une corde. Les deux victimes portaient les traces de multiples blessures. M. Moreau avait été littéralement lardé à coups de couteau, et il portait également la marque de deux coups de marteau à la tempe. Madame Arieux aussi. Immédiatement, M. Arieux et le garde champêtre prévenaient téléphoniquement le commissaire de police de Choisy-le-Roi, qui prévenait aussitôt M. Aymard. Le chef de la sûreté, qu'accompagnait M. Lescouvet, procureur de la République, se rendait immédiatement sur les lieux avec plusieurs inspecteurs. Leur première impression fut qu'ils se trouvaient en présence d'un crime crapuleux. Très rapidement, ils découvraient dans le jardin, situé derrière la maison, des empreintes de pas assez nettes pour leur permettre d'établir que les criminels devaient être au moins deux. Vraisemblablement, l'un des bandits avait dû escalader le mur du jardin, du côté de la rue qui donnait dans le pays, se faufiler sur le toit d'un hangar et se laisser glisser à terre. Il avait alors pénétré dans la maison par une porte qui n'était fermée qu'au loquet et était allé ouvrir de son complice la porte cochère qui donnait sur la rue de l'église. Ensuite, les deux gredins avaient pu en toute tranquillité commettre leur crime abominable. Le désordre qui régnait dans toute la maison semblait démontrer que les bandits avaient agi en vitesse. Dans la chambre de M. Moreau, ainsi que dans celle de la bonne, les tiroirs des meubles gisaient à terre, renversés. Dans une chambre, située de l'autre côté du couloir qui desservait l'étage, un secrétaire avait été fracturé. Mais deux de ces tiroirs à secret n'avaient pas été forcés. Grâce aux renseignements fournis par la famille de M. Moreau et par plusieurs de ses voisins, on put évaluer le montant du vol à une vingtaine de mille francs, en pièces de 20, 40, 50 et 100 francs. Un chronomètre en or avait également disparu. M. Hamard interrogeait ensuite un certain nombre de témoins, mais aucun ne lui fournissait le moindre indice capable de le mettre sur une bonne piste. Pendant ce temps, M. Gilbert continuait son instruction. On lui dit que les époudets de Villers et Jeanne Botelli avaient été frappés d'une subite amnésie. À toutes les questions que leur posait l'habile magistrat, il répondait invariablement par ces mots. « Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Oh non, je ne pourrais pas vous dire. » Cependant, M. Gilbert finissait par obtenir d'eux de plus amples renseignements. C'est ainsi que Jeanne Botelli lui expliquait qu'elle avait connu Caroui aux causeries populaires qu'organisait rue de Magnolet, un journal anarchiste. Il s'était alors mis en ménage et avait été se fixer à Saint-Thibault-les-Vignes. Elle déclarait qu'en novembre dernier, elle avait brusquement quitté cette localité à la suite d'une vive discussion avec son amant et qu'elle était venue se réfugier à Paris, rue Fessard, où Caroui était venu la rejoindre. Mais, comme il se déplaisait fort à cet endroit, en attendant de trouver un nouveau logement, ils avaient accepté l'hospitalité de Detviller, qui venait de s'installer à Bobigny. Enfin, elle prétendait que leurs meubles avaient été transportés de Saint-Thibault chez Detviller à l'aide d'un camion automobile monté par plusieurs individus qu'elle ne connaissait pas. Après avoir reconnu qu'elle était chez Detviller la nuit où l'on avait amené la limousine volée à M. Normand, elle affirme « Je n'ai rien entendu, je ne pourrais même pas vous dire si Caroui s'est levé. » Detviller, qui s'était mis à parler, lui aussi, déclarait ceci au juge. J'ai connu Karoui, voici 1 an et demi, mais j'ignorais son vrai nom, car on me l'avait présenté comme un certain Édouard, appelé aussi Petit Gris. Il est vrai que j'ai pris part au déménagement à la cloche de bois de Karoui, et que ces meubles ont été transportés dans un camion automobile où il y avait 4 hommes. Mais j'ai oublié leur nom, et comme c'était la nuit, il me serait bien difficile de les reconnaître. Enfin, au sujet de la livraison de la limousine, D'Etvillers affirmait. Mais quand je suis remonté dans notre chambre à coucher, ma femme m'a dit: On est venu livrer les carreaux de plâtre que nous attendions. J'ai répondu: Je sais pas trop pourquoi. Oui. Quant à la femme d'Etvillers, elle finissait par avouer au juge que son mari lui avait parlé d'une automobile. Mais D'Etvillers protestait. Non, ma femme fait confusion. Je lui ai bien parlé d'une automobile, mais il s'agissait d'une voiture que j'avais réparée à Lagny. Ce fut tout ce que M. Gilbert put obtenir des 3 inculpés. C'était peu de choses, et en tout cas insuffisant pour guider les recherches des policiers. Ceux-ci n'en continuèrent pas moins leurs investigations avec une activité intense et un zèle ardent. Convaincu qu'il existait une corrélation entre le crime de la rue Ordonneur et celui de Thiers, et qu'ils avaient été commis tous deux par cette terrible association de malfaiteurs anarchistes dont Karoui était l'un des membres les plus actifs, messieurs Amard de Join poursuivent leurs recherches du côté de Lagny, Bobigny et Pavillon-sous-Bois, malheureusement sans résultat. Ils exploraient, sans se lasser, 1 minute, tous les milieux suspects et tous les repères où pouvaient se cacher les mystérieux et insaisissables bandits. Mais une succession de faits extrêmement étranges et troublants allait encore renforcer la conviction de la police. Successivement, à Paris, dans un garage privé, 2 rue Eugène Carrière, une automobile de 45 chevaux disparaissait sans que personne ait pu même entrevoir les voleurs. C'était un double phaéton marque Itala 270X5. Il était peint en gris fer perlé avec filet vert foncé. La concierge de l'immeuble déclara avoir entendu vers 3 heures du matin le bruit d'un moteur dans le garage. S'étant mise à la fenêtre, elle vit bientôt l'auto s'éloigner dans la direction de la rue Étex. Mais comme la nuit était très profonde, elle ne put distinguer les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Persuadée que c'était le chauffeur habituel qui sortait sa voiture pour un voyage, elle avait été tranquillement refermée sa fenêtre. Autre fait à Livry, M. Pantalonnani, commissaire de police, était en train d'enquêter au sujet d'un vol de boîte de conserve commis par un nommé Oswald Kotzmann. Il s'était rendu avenue de Renoy à Livry, dans une auberge tenue par un sieur Ernest Miget d'Inness, et où Kosman avait sa chambre. Depuis un certain temps, cet établissement ainsi que ses devanciers, à la suite de divers incidents, étaient l'objet d'une surveillance discrète de la part de la police. M. Paolantoni, profitant qu'il se trouvait sur les lieux, s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de visiter à fond la maison et ses dépendances, ce qui parut d'ailleurs troubler quelque peu le dénommé Nénès. Enfin, après s'être fait quelque peu tirer l'oreille, il remettait les clés du logis au commissaire qui commençait sa perquisition. Quel ne fut pas l'étonnement de ce dernier en apercevant dans la remise une auto en partie démontée et qui n'avait plus ni plaque ni numéro de matricule. Comme le commissaire demandait à M. Miget d'où provenait cette voiture, l'aubergiste, ne put lui faire que des réponses évasives et même contradictoires. Madame Bigette, qui semblait plus maîtresse d'elle-même que son mari, racontait que 3 semaines auparavant, son mari et elle avaient été réveillés à 2 heures du matin par 2 hommes en casquette. « Nous avons une panne d'auto, déclare-t-il. Pouvez-vous garer notre machine ?» L'aubergiste y consentit et aida les 2 inconnus à garer leur auto dans sa remise. Les 2 hommes se firent ensuite servir à boire et partirent dans la nuit en disant qu'ils reviendraient le lendemain dépanner leur voiture. 3 jours après seulement, 2 jeunes hommes imberbes et coiffés de chapeaux melons arrivaient, pénétraient dans la remise, démontaient le moteur et diverses pièces, et repartaient. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, 2 autres individus se présentaient, déclarant qu'ils venaient réparer l'auto. Ils burent, mangèrent et s'enfuirent, et on ne le revit pas. Comme le commissaire demandait au tenancier d'où venaient ces chauffeurs, où il demeurait, comment il s'appelait. Nénès et sa femme répondaient qu'ils n'en savaient rien. Peu satisfaits de ces déclarations et convaincus que ces singuliers chauffeurs avaient volé cette voiture, étaient tout simplement en train de la maquiller ou d'en emporter les pièces les unes après les autres, M. Parlantani inculpait les époux Migette de vol par recel. Pendant toute la journée, le commissaire de police de Rennes, qui venait de faire preuve d'un flair si remarquable, continuait son enquête, assisté par les inspecteurs de la Sûreté Générale, Carré et Chapuis. Il parvenait à découvrir que l'auto, saisie à l'auberge Migette, appartenait à M. Eugène Barat, tapissier, 78 rue de la Tour à Paris, et qu'elle avait été volée dans les circonstances suivantes. Le dimanche 17 décembre, M. Barat, qui conduisait lui-même sa voiture, ayant eu une panne à un pavillon sous bois, garait sa machine dans la cour d'un débit de vin tenu par Mme Veuve Goudaillet, 80 route nationale. Le lendemain, Mme Goudaillet constatait avec stupeur la disparition de la voiture, que les voleurs, profitant de la nuit et du mauvais temps, avaient enlevé pour la conduire en la poussant à la main chez l'aubergiste Migette, c'est-à-dire à 2 kilomètres de là. L'attention de la police était encore attirée par plusieurs vols d'armes, dont certains armuriers parisiens avaient été victimes rue des Filles-Saint-Thomas, rue Lafayette et boulevard Haussmann. Ces découvertes achevèrent de convaincre les enquêteurs qui se trouvaient en présence d'un complot anarchiste organisé par des propagandistes par le fait ayant pour but de se livrer à ce que ces gredins appelaient, dans leur langage spécial, une campagne de reprise individuelle. La lutte s'annonçait donc comme âpre, difficile et même périlleuse. Aussi M. Lépine, préfet de police, d'accord avec le gouvernement, décidait-il de renforcer l'état-major de sa police. Le 13 janvier, M. Hamard, chef de la Sûreté parisienne, était nommé directeur du service des renseignements généraux. M. Xavier Guichard, alors chef de la brigade chargée de poursuivre les chars anarchistes, était nommé chef de la Sûreté. M. Jouin et M. Raoul Legrand restaient ses collaborateurs directs. L'habileté remarquable du juge d'instruction Gilbert et l'activité de ces 3 hommes, intelligents et énergiques entre tous, n'allaient pas tarder à se manifester d'une façon effective. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, c'était surtout dans les milieux anarchistes que les habiles limiers, lancés sur les traces des coupables, avaient porté leurs recherches. Au cours de leurs opérations, leurs soupçons s'étaient dirigés et arrêtés sur un certain Raymond, qui, d'après les renseignements fournis par des indicateurs, semblait avoir pris part à l'attentat de la rue Ordener. Mais Raymond restait introuvable. Or, les limiers, lancés à ses trousses, avait été amené à tiquer également sur un autre anarchiste nommé Octave Garnier, ouvrier boulanger né à Fontainebleau, âgé de 24 ans et insoumis à la loi militaire. On avait pu établir que Garnier était un ami de Caroui et de Detviller. Mais Garnier, lui aussi, avait réussi à échapper aux policiers lancés à ses trousses. À la suite d'adroits recoupements, M. Xavier Guichard découvrait bientôt que ces deux hommes n'en faisaient qu'un seul, et que le pseudo Raymond n'était autre que Garnier, bandit des plus dangereux dont le casier judiciaire était déjà chargé de 3 condamnations pour vol et d'une 4e à Charleroi pour tentative d'assassinat sur un agent qui voulait l'arrêter. M. Guichard, muni de plusieurs photos de condamnés, dont celle de Garnier, se rendait aussitôt avec M. Join à l'hôpital Bléchat et disait à M. Cabi, qui continuait à aller de mieux en mieux, « Voici plusieurs portraits. À coup sûr, celui d'un des misérables qui ont tenté de vous assassiner s'y trouve. Voyez donc si vous le reconnaissez. » Le garçon de recette se mit à examiner les images avec attention, et tout à coup, son regard se fixa sur l'une d'entre elles avec une émotion intense. « Mais le voici !» s'écria-t-il. « Oh, c'est bien lui, c'est bien son regard. C'est lui qui a sauté de l'automobile et est venu au-devant de moi, a tiré sur moi à bout portant, et s'est enfui avec ma sacoche. » La photographie que donnait Gabi était de celle de Garnier. Elle était reconnue également par le témoin La Tabac, qui sans hésitation déclarait au chef de la sûreté « Oui, c'est bien cet homme qui m'a tiré dessus à travers la portière quand l'auto filait vers la rue Montcalm. Je le reconnais. Oh, il n'y a pas de doute, c'est bien lui. » L'épreuve était décisive. On tenait la piste du gibier. Il s'agissait maintenant de découvrir son gîte. M. Xavier Guichard apprenait bientôt que Garnier, quelque temps auparavant, habitait Vincennes, 42 rue des Latières, avec sa maîtresse, la femme Marie-Félicie Villemain, âgée de 22 ans, née à Mons, ayant déjà été condamnée pour vol à Charleroi. Mais les enquêteurs envoyés à cette adresse constatent qu'Octave Garnier avait disparu brusquement le jour où il avait appris l'arrestation des époux d'Edviller. On ne tardait pas, cependant, à arrêter la fille Villemain, qui déclara ne pas connaître l'endroit où s'était réfugié son amant et se contenta d'affirmer qu'il ne devait être pour rien dans l'affaire de la rue Ordinaire. Une perquisition opérée au domicile de la mère d'Octave Garnier, qui habitait à Paris, 6 rue Jeanne Hachette, dans le quartier de Vaugirard, faisait découvrir chez cette personne une malle fermée à clé et déposée là par son fils. En l'ouvrant, on constata qu'elle était remplie d'un attirail complet de cambrioleurs et de différents objets qui ne pouvaient provenir que de vols. 2 autres malles étaient également appartenues à Garnier et étaient saisies dans les bureaux de l'Idée Libre, passage de Clichy. Elle ne contenait que des vêtements et du linge. Un nommé Medge, qui avait été arrêté également pour avoir cambriolé plusieurs bureaux de poste, et notamment celui de Romainville, reconnut qu'il avait reçu Caroui chez lui, à Garches, après le drame de la rue Ordinaire, mais il affirma qu'il n'avait jamais été en relation avec Garnier. Enfin, le 1er février, M. Join, au cours d'une perquisition au journal de l'anarchie, arrêtait un Russe nommé Kilachtchev, accusé lui aussi de plusieurs vols. Mais les principaux coupables demeuraient toujours en liberté. Mais l'affaire dite des bandits tragiques allait soudain rebondir de la façon la plus palpitante.